Oh my God, l'émission décomplexée sur les séries, présentée par Eric Maillard et sa bande sur Beta Série, la radio.
Bonjour et bienvenue dans Oh My God, épisode 3. Ici, on va continuer à assumer nos choix, qu'ils soient ou pas dans la tendance. Et on n'oublie pas que les séries, c'est avant tout une histoire de kiff. Alors d'abord, merci d'être aussi nombreux à nous écouter, puisque Oh My God a dépassé les frontières. Notre audience va jusqu'en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis. On a une pensée particulière pour nos auditeurs qui sont en Moldavie, à Madagascar, en Corée du Sud... ou encore
on est international.
Ouais, c'est ça. Et je me suis dit d'ailleurs que c'est parce qu'il y a une dimension internationale que vous étiez tous revenus. Tous les copains chroniqueurs sont de retour.
Salut.
Salut.
Yeah.
Oh merde.
C'est amazing.
Lorsque j'ai parlé de Moldavie, j'ai vu son sourcil frétiller. Il a immédiatement pensé à une princesse, à un mariage sanglant dans la version originale de Dynasty. C'est Fabrice Dupreuil.
Et oui, j'étais pas invité à ce mariage. Ça tombe bien, ça finissait mal. Mais j'étais pourtant très ami avec Amanda Carrington.
Personne n'a la référence, on est d'accord?
Non. Moi, je suis là. Est-ce qu'on peut à la fois déménager et enfin tomber sous le charme des docu-séries? C'est à cette grande question qu'on répondra peut-être avec Céline Niederhofer.
Bonjour à tous et il faut retrouver la connexion et la box d'abord pour mater les séries, donc c'est compliqué.
Ouais, je comprends. Tout le monde sait qu'elle ne regarde pas les avis sur les médias sociaux, donc je me fais copieusement engueuler pour elle quand elle tire à vue sur Euphoria ou qu'elle porte au nu Messia, c'est Virginie de Closel.
Salut tout le monde. Vous pouvez continuer à envoyer vos messages à Eric.
Merci pour ça.
Il gère ça très bien. Voilà. Et si vous aimez pas, bah c'est perdu qu'il faut se tourner.
On a passé les 4 dernières semaines à être d'accord sur à peu près tout. Sauf les séries.
Ouais,
ça devrait se vérifier encore aujourd'hui avec un bon débat, c'est Émilie Lopez.
Ça va saigner.
Ouais,
en fait, il y a une amitié qui se perd.
Qui est en jeu. Bon, elle n'est pas perdue encore. Elle est en jeu, on est bien d'accord.
J'ai peur avec.
Tout le monde est assez chaud sur des débats aujourd'hui, je crois. Hein.
Ouais. Bon, on va
chaud,
parler de cul, donc... pardon.
De sexe dans les séries.
Ah, pardon.
Oh my God.
Au sommaire de cette troisième émission, vos coups de cœur du mois en première partie. Le débat à la fin sera consacré au sexe dans les séries. On a déjà fait un petit spoiler avec Selim. Et entre les deux, il y aura les audiences et peut-être enfin suffisamment de temps pour notre nouvelle chronique Carte Blanche. Pour laisser une chance à cette chronique, je vous propose de démarrer direct.
Oh my God, les coups de cœur du mois.
Dans cette première partie, vous le savez, je vais vous demander de nous parler de votre coup de cœur du mois. Vous pouvez choisir parmi les sorties récentes ou la nouvelle saison d'une série plus ancienne, par exemple. Et on commence avec Virginie.
Direct avec moi.
Allez.
Comme ça.
Ouais, j'ai vu que tu étais sur ton portable, je me suis dit, on va y aller.
Je regardais le conducteur.
Non, ouais. Ok, c'est
non,
toi donc.
Non, mais mon coup de cœur du mois, c'est pour la série Cheer qu'on retrouve sur Netflix, et qui est une série sur les pom-pom girls. Alors que je conseille de façon assez décomplexée, globalement, pour être cool, hein, pas trop réfléchir, etc. Mais les Américains, ils sont très forts parce qu'ils font des séries avec n'importe quoi. 3 bouts de ficelle, pouf, ils vous mettent du suspense et vous êtes accrochés devant votre écran. Donc là, en fait, aussi fou que ça puisse paraître, on s'intéresse au cheerleading et en fait c'est un sport hyper compliqué qui n'a absolument aucun débouché, donc il y a quelque chose d'assez magnifique dans ce côté Don Quichotte d'aller se ruiner la santé pour un truc qui va te porter nulle part, hein, globalement, et tu vas rater tes études. Et là où j'ai appris quelque chose, j'ai donc déconstruit un préjugé, je suis sortie de cette série moins idiote que je n'y étais entrée, c'est que je m'attendais à ce que ce soit que des poupées là, que j'avais vues dans les sitcoms et les films américains qui sortaient avec le mec qui fait du quarterback. En fait, pas du tout, c'est que des gamins au destin fracturé, ils sont face cam, ils ont 17 ans, ils vous regardent avec une intensité dramatique ouf en vous disant si je ne faisais pas ça, je serais mort aujourd'hui, je serais en prison. T'es là, waouh.
C'est ce qu'ils ont choisi pour ce documentaire, non? Non, tu penses que ils sont
tous comme
ça?
C'est la meilleure équipe des États-Unis qu'ils ont suivie, celle qui a gagné, je sais pas, genre 15 fois le championnat. Et donc en fait, évidemment, c'est à la ricaine, c'est qu'il y a toutes ces milliers d'écoles qui sont tendues vers à la fin un seul championnat, 2 minutes 15. Et puis si là vous gagnez, vous avez peut-être une chance de faire quelque chose. Et pour le reste, bah, c'est merci, tchuss, bye bye, retour maison.
Non, parce qu'il y a assez fou aussi dans cette série. Moi, j'ai adoré la regarder. Ouais. C'est qu'effectivement, t'as le stéréotype de la pom-pom girl que tu vois dans les séries. Et là, en fait, tu te rends compte que c'est vraiment un truc, mais ça fait un peu flipper ce sport. C'est-à-dire que quand on commence la série, il y en a une, elle en est à sa 5e commotion cérébrale. Donc, ouais. Déjà, voilà. Et quand tu les vois s'entraîner dès le premier épisode, tu les vois tomber, mais t'entends un boom et tu sens que c'est pas un boom qu'ils ont rajouté en post-prod. Hein.
Non,
c'est un vrai
boom.
Gros boom. Et la nana, elle tombe, elle se fait hyper hyper mal, elle fait non mais j'y retourne. Et t'as le médecin qui lui dit non, en fait, meuf, va falloir que t'ailles aux urgences et tout ça. Non, j'y retourne. Et c'est franchement assez dingue. Et ceux qui ont aimé cette excellente série qui est Friday Night Lights, qui est génial. D'ailleurs, j'ai découvert, à nouveau dispo sur Amazon, donc si jamais vous avez envie de vous la faire ou de vous la refaire, elle y est, foncez sur Cheers. Franchement, c'est très très sympa et c'est assez dingue, assez surprenant.
Mais l'enjeu, c'est quoi du coup? C'est de savoir qui va rester vivant à la fin?
C'est les sélections, tu sais, ils sont 40 par team et seulement 20 iront dans la prestation finale. Donc si t'as pas le niveau au sein de ton équipe, tu te fais dégager. Mais ce qui est bien, c'est qu'avec toutes ces blessures, t'as quand même ta chance, tu vois. Donc tu restes motivé et tu les suis ultra motivés sur le côté, à côté du tapis. C'est vraiment bien sur le côté athlétique et compétitif.
Travail, famille, patrie, quoi, tu vois, c'est bien ricain.
Oh, wow. Ouais.
C'est un peu ça, c'est très ricain. D'accord. Mais c'est dans le bon sens du terme parce que c'est mis à profit de gamins un peu, enfin, qui ont des parcours compliqués et des vies atypiques.
Enfin, dans le bon sens, sauf sur un exemple qui est la grande star des cheerleaders qui, en fait, est obligée d'aller à l'autre bout du pays pour remplacer des gens, qui fait du mannequinat et tout ça, et dont tu te rends compte que ses parents sont derrière, limite, ils la forcent et tout ça. Et tu vois aussi ce truc de la nana, elle n'a pas trop le choix non plus. Donc, tu as aussi l'autre côté de la souffrance de la nana qui n'a pas.
Oui, bah, ça, globalement, dès qu'on met une caméra avec des gars et des parents derrière, bon bah forcément. T'as le résultat. Souvent ça raconte ça.
Donc à regarder Cheer sur Netflix.
Ouais.
Célim?
Yes, on va parler de...
Alors, je suis désolé de te déranger, Céline. Non, mais je te dérange, je comprends.
Encore... Mais on va rester dans la compétition. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de la sortie de la saison 2 de Formula One Drive to Survive, la série documentaire de Netflix sur la Formule 1.
Une série documentaire.
Mais exactement, je suis converti, je regardais déjà, mais pas des enquêtes.
T'as tellement fait basculer, mais tellement.
Non, c'est mon coup de cœur, car elle s'annonce encore plus folle que la saison 1, qui m'a donné envie de regarder à nouveau la Formule 1 le dimanche à la télé. Alors, la deuxième saison de Formula One, Drive to Survive, en français, c'est Pilote de leur destin. Ça arrive le 28 février 2020. En gros, on plonge dans les coulisses de la dernière saison de Formule 1, celle qui vient d'offrir à Lewis Hamilton son 6e sacre mondial, avec une grande nouveauté cette fois-ci, la participation de Mercedes et de Ferrari, les deux écuries leaders du championnat de Formule 1, qui avaient refusé de figurer dans la saison 1. Pourquoi est-ce qu'ils avaient refusé? Je sais que vous vous posez la question.
Oui, évidemment.
Pour des questions d'image. Ils craignaient pour leur image, mais la saison 1, elle a eu un tel succès.
Ils sont du merde pour notre image, c'est pas bon.
Exactement. Les seuls absents.
Voilà, que du coup, les Flèches d'Argent et la Scuderia, ils ont pas pu dire non à la saison 2. Ce que je peux vous dire déjà, il n'y a pas d'images qui ont été libérées pour les médias pour le moment. Dans la deuxième saison de Drive to Survive, les équipes de tournage, elles ont suivi Mercedes durant le week-end du Grand Prix d'Allemagne. En gros, ça a été la catastrophe pour Mercedes. Ils sont censés gagner sur leur tête. Lewis Hamilton, il part en pole position, il finit 9e, son coéquipier, il abandonne pendant la course. Donc ça va bien s'embrouiller entre les pilotes et les ingénieurs. 9 épisodes seulement au programme, contrairement à 10 de la première saison. Mais on retrouvera tous les ingrédients qui ont fait la réussite de ce programme. La course, la vitesse, les performances techniques, la tension entre les écuries, la testostérone de fou, le marché des transferts, la concentration des pilotes, mais surtout la rivalité. Alors attention, quand je vous dis rivalité, n'imaginez pas la rivalité Mercedes contre Ferrari, non.
J'imaginais pile ça, c'est tombé pile dessus.
C'est pas ça du tout, ce qui est plus savoureux, c'est la baston entre les copilotes d'une même équipe. Ah. En clair, c'est entre Hamilton et Valtteri Bottas, et surtout ce qui va être sale à regarder dans cette deuxième saison, c'est l'ascension de Charles Leclerc, le deuxième pilote Ferrari qui va passer numéro 1 devant Sébastien Vettel. Sébastien Vettel, pour ceux qui n'ont jamais regardé la Formule 1,
c'est un Allemand
qui a gagné déjà 4 fois le championnat du monde, 2010, 2011, 2012, 2013. Seuls Fangio et Schumacher avaient fait aussi bien avant. Donc ça va saigner, ça va rouler vite, il va y avoir des crashs, on va bien se marrer. C'est Drive to Survive, saison 2, et ça arrive le 28 février.
Il parle de la vie d'homme réel.
Oui, bien sûr, on est fiction, on est bien d'accord.
Il faut être un peu passionné de sport automobile à la différence de Cheers. C'est une question, c'est ma question.
Non, alors moi par exemple, j'ai bien aimé la saison 1 parce que j'en ai rien à foutre des bagnoles, ça m'intéresse pas du tout, mais le patron de l'écurie Renault, il est hyper sexy.
Mais ça, c'est le débat de deuxième partie, ça.
C'est
un message.
Reviens dans 20 minutes.
Là, les auditeurs peuvent se manifester.
S'ils t'écoutent, tu veux dire. D'accord, je comprends. Ok, donc on va y aller. C'est Drive to Survive et c'est
sur Netflix
le 28 février. Donc toi, tu fais maintenant des trucs en avance, quoi.
Mais vu que l'émission va être.
On sera quelques jours avant.
On est là pour la tendance.
C'est bon. La tendance t'attend. J'ai envie de dire ça, moi.
Fonce.
Émilie, tu nous parles de TF1.
Moi, je vais vous parler d'une série qui fête ses 20 ans cette année. Au et revoir. Oui, oui, bah ouais, je suis désolée. Il n'y a pas que Netflix ou Amazon ou OCS dans la vie. Il y a aussi TF1. TF1 qui nous propose là la saison 20 de New York Unité Spéciale. La meilleure série policière de
Olivia
tous les temps.
Benson.
Benson.
Une lettre.
Voilà. Pour ceux qui vivraient dans une grotte depuis 20 ans, grosso modo, New York Unité Spéciale, ça raconte l'histoire d'une brigade de l'unité spéciale de New York, de la police new-yorkaise, qui ne s'occupe que des crimes sexuels.
DSK, c'est eux qui ont arrêté DSK.
Exactement. Et donc là, ils proposent, donc la, TF1 diffuse la saison 20 inédite. C'est la série qui a duré le plus longtemps en prime time de l'histoire. Donc ça mérite qu'on s'y arrête. Grosso modo, moi, ce que j'aime chez eux, c'est que au-delà du fait que la série a 20 ans, elle réussit encore à me surprendre. Bon, on adore Olivia Benson, bien évidemment, Mariska Hargitay.
Il y a beaucoup de soucis, Olivia.
Ah voilà, il y a beaucoup de soucis. J'aime beaucoup aussi le fait qu'ils surfent vachement sur l'actualité. Comme tu le disais, ils ont fait notamment un épisode sur DSK. Ils sont en prépa un peu pour en faire un sur Weinstein. Ils arrivent aussi à parler de sujets de société comme le problème de la ville, enfin des migrants. Ils parlent de l'assistance sociale qui est débordée aux États-Unis parce que c'est la merde là-bas. Ils parlent aussi de l'homosexualité dans le sport ou dans la police ou du commissariat. Et tout ça. Cette série est vraiment passionnante et je me dis comment on fait après 20 ans pour réussir à faire encore une série à succès. Franchement, chapeau bas. Alors qu'à l'origine, c'était un spin-off en plus. Ça partait à l'origine d'un spin-off de New York Police Judiciaire. Ils en ont fait plusieurs. Le seul qui est resté, c'est New York Unité Spéciale. Même New York Police Judiciaire a été arrêté. Donc voilà, j'aime beaucoup.
Très rapidement, tout le monde la connaît évidemment. Oui. Non, le monde l'aime. Non, Céline, tu connais
regardé.
Pas. T'es sérieux?
Moi, je trouve que c'est super à regarder. Après, ça peut se regarder dans n'importe quel ordre, parce que moi, j'ai toujours l'impression que je tombe toujours à peu près sur le même épisode. C'est un peu toujours les mêmes histoires. Enfin, je suis je suis jamais étonné. Je me dis, ça va se dérouler exactement
comme
ça.
C'est toujours le troisième qu'on interroge qui est le coupable.
Tu sors jamais. Alors, Olivia Benson, elle est démonte.
Mais c'est pas le propos. Tu t'endors devant ça. C'est top.
Ah voilà. Ça t'endors pas justement à cause de cette petite musique qui moi me tape. C'est plus Netflix, mais il y a
non.
La musique, les intervalles.
Oui, tout doux.
Ça, c'est pour te réveiller, justement. C'est pour que tu dises attention, c'est pas fini.
C'est pas l'heure de m'envoyer des musiques comme ça.
Mais c'est pas mal. Non, vraiment, c'est pas mal pour le coup, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu pareil. Quand même. J'ai l'impression que de voir depuis des années toujours le même épisode.
Quoi. Non, je sais pas.
Il faut ajouter un truc, c'est que c'est quand même une des rares séries qui n'est consommable qu'en français.
C'est
pas possible, quoi. C'est juste non. Pas.
Mais
c'est
parce qu'on l'a toujours vu en VF.
Il y a ça et
comme Urgence. Oui, bah oui, Urgence. On l'a découvert sur France 2 le dimanche soir, donc.
Mais Urgence en VO, c'est pas possible. Surtout, tu comprends pas la moitié des trucs.
Comme Dynastie.
En français non plus.
Si t'es pas docteur.
Non, mais pas que, parce que le filtre de la langue t'enlève le côté cheap. Sinon, quand tu regardes en VO, t'as l'impression d'être dans Julie Esco. Quand tu les vois doubler en français, ça te fait un truc un peu éloigné, genre waouh, c'est les États-Unis qu'il faut rêver. Tu vois, ça tient à rien.
Et on embrasse Véronique Jeunesse, du coup.
Ouais. Ouais. De la même façon.
Et on fera une spéciale série policière, on se les promet entre nous.
C'est bien les associations d'idées, toi. Julie Esco, police. Je rigole, humour. Je sais qu'elle était policière, pardon.
Heureusement que t'as pas joué dans Julie Esco, parce que là, je te jugerais. Hein.
Sinon, on sortait les images.
J'ai joué dans Julie Esco.
Tu as joué, mais on a un dossier là-dessus, on y reviendra.
Je suis mignonne. C'était il y a longtemps, je rassure.
Pardon, mais Eric est en fou rire quand t'as dit j'étais mignonne.
Non, mais je revois les images de Virginie dans Julie Esco. Allez voir, ça doit être sur Google, non?
Oh bah évidemment.
Ouais, bah allez voir. Qui Fabrice. On n'a pas vu Fabrice.
J'ai deux minutes, je crois.
Il est là.
Fabrice, tu as. Non, 1 minute 30.
Ah oui, 1 minute 30, bah je
que
pense.
Des mots-clés. Tu mets 4 mots-clés, c'est bon.
Ok, vas-y. Alors Succession, c'est sur OCS, ça dure 20 épisodes, il y a 2 saisons. C'est la famille de Roy Logan.
T'as tes 3 minutes, hein, calme-toi.
D'accord. C'est un mania des médias, entre autres, puisqu'il possède aussi une énorme entreprise de croisière, de parcs d'attractions. Très bien. Il a la série raconte l'histoire de cette famille qui est complètement dysfonctionnelle, bien sûr. Et surtout, les manigances et les stratégies de ses 4 enfants, il y a 3 garçons et une fille, pour succéder à ce père qui est complètement tyrannique et complètement pervers. Et c'est le parti pris de Succession, c'est que tous les personnages sont de vraies ordures, hein, il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Et comme on dirait au VPSM, on ne va pas se mentir, la première fois que je l'ai regardé...
Attends, non, tacle gratuit, non, mais... ça ne va pas être possible.
Alors, au VPSM, juste, je voudrais... Donc, on ne va pas se mentir, là, d'abord, j'ai regardé le premier épisode et je me suis dit, je ne vais pas regarder la suite parce que ce sont tous des crapules. Mais c'est vraiment, c'en est même gênant. Mais en fait, l'écriture est tellement bien faite que c'est vraiment foutu après comme une saga. C'est-à-dire qu'il y a des rebondissements, il y a des twists, il y a des cliffhangers, et du coup, on reste jusqu'au bout. Bien sûr, le premier truc auquel on pense, c'est à Dallas. Sauf que Dallas, c'était il y a 40 ans, c'était l'ère Reagan. Là, c'est vraiment clairement l'Amérique de Trump qui en prend plein la gueule. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'Hollywood a filé le Golden Globe à la série comme meilleure série dramatique. Et bien sûr, comme c'était il y a 40 ans, le storytelling a changé aussi. Et donc là, c'est filmé carrément caméra à l'épaule, on va pas se mentir. arrête de me regarder. Et donc, on va pas. Non, et donc, c'est pas ça que je voulais dire. Non, c'est que oui, et donc c'est filmé comme un documentaire.
On l'a perdu, ouais. On l'a perdu à cause de toi.
C'est filmé.
Il y a eu un moment, tu l'as regardé, c'est fini. Ouais, c'est il est parti loin.
Tu es trop troublante, Emily. Et donc, oui, c'est filmé comme un documentaire, finalement. Et c'est écœurant jusqu'au bout. Ce qui est assez marrant dans cette série, moi, c'est qu'au-delà de cette Amérique de Trump, j'ai l'impression quand même que cette série, c'est un peu une série qui montre notre société pré-apocalyptique. C'est-à-dire qu'on se dit qu'on va aller dans le mur, on est plus proche de la fin que du début. Et donc, du coup, quitte à aller dans le mur, ben, on peut faire les pires saloperies. Tout est permis. L'intérêt personnel passe avant l'intérêt collectif. La série
est démente. C'est pour ça qu'on va dans le mur, d'ailleurs.
Il faut. Exactement, pas mal. Tout est lié. Je vous la conseille, ça s'appelle Succession. C'est génial. C'est vraiment génial. Tous les acteurs sont déments. Donc voilà, je vous conseille de la regarder. Si vraiment vous aimez les sagas, mais que vous aimez aussi les belles saloperies, il faut dire ce qui est, je vous conseille de regarder Succession.
Ce que tu dis est vrai. C'est mal filmé. Moi j'ai failli gerber pendant le premier ou le deuxième épisode.
C'est une tentative de réalisation.
C'est chelou.
Ouais, pour moi aussi.
C'est une tentative de réalisation. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'en gros, t'as l'air de dire que c'est une série poussée à son paroxysme, qui pousse le capitalisme à son paroxysme, fort de quoi tu sors de là communiste.
Ouais. Alors, il faut peut-être que je regarde une saison 3 parce que j'en suis pas encore là, mais effectivement, il y a un truc vraiment qui te donne envie de gerber dans cette série.
Ce qui est étonnant, c'est que regarde jusqu'au bout. Aucun ne devient attachant au fil du temps. On se dit en deux saisons, il va y avoir quand même un petit attachement. Non, en fait,
donc vous continuez à regarder. Ça, c'est bien.
C'est très étonnant.
Oui, mais justement, moi, je trouve ça assez fort d'arriver enfin à nous dire, il n'y a pas un gentil héros ou un héros qu'on trouve psychologiquement attachant. Non, ils sont pas attachants du tout. Ce sont tous des ordures.
Et on prend plaisir à les regarder.
On essaie de les comprendre, mais
vous nourrissez votre mauvaise bête, méfiez-vous.
Ça nous fait du bien de savoir tout ce qu'on pourrait faire et qu'on ne ferait pas.
Et pour une fois, je crois qu'il reste une minute et que je vais avoir le temps de parler de mon coup de cœur.
Alors, c'est
pour la première
c'est
fois,
quoi, chef
fois. Vous êtes content, pas
ouais.
Tout le monde s'en fout.
Tu sais, tu es en train de niquer ta minute juste pour nous dire est-ce que vous êtes content.
Ouais, mais parce que tu vois, j'essaie de faire.
Bref. Vas-y.
Alors, moi, j'ai des goûts un peu particuliers en science-fiction parce que j'aime en space opéra notamment. La space opéra, tu sais ce que c'est pas comme les soap opéra. C'est des trucs, c'est très.
Donc on part du principe que tu ne t'adresses qu'à Fabrice.
Oui, mais parce que soap opéra.
C'est une question de génération. tu peux pas comprendre.
Exactement. Donc moi, j'aime pas Star Trek, j'aime pas Star Wars, mais j'aime bien Cosmos 99. Donc mes goûts sont un peu particuliers. Mais il y a une série de space opéra qui s'appelle The Expanse, qui est arrivée sur Amazon, qui a été créée par Sci-Fi au départ, annulée au bout de 3 saisons, reprise par Amazon, qui vient de signer pour une 5e saison. Donc du coup, ça donne un peu de projection sur le futur. C'est super bien. C'est une série qui s'appuie sur un roman qui a été écrit par les deux assistants du monsieur qui a écrit Game of Thrones. Je regarde le livre qui est en face, parce qu'il y a son nom dessus. C'est des moyens limités au départ, mais ça se voit pas trop à l'écran. C'est une narration qui est exigeante et un peu compliquée. En gros, on peut pas regarder son téléphone en même temps qu'on regarde cette série. Faut s'accrocher. Mais il y a une vraie réflexion sur la société actuelle qui la déplace parce qu'on est dans un space opéra. Donc il y a la Terre qui est très engagée, en tout cas au début, qui est en face à face avec la population de Mars qui est un peu plus militarisée. Et entre les deux, il y a ce qu'on appelle la ceinture avec un univers de prolétariat qui renvoie à plein de choses qu'on a connues, et notamment en France récemment. Donc c'est dans 200 ans. C'est passionnant. Ça traite de plein de sujets différents, notamment ils ont un traitement des sujets LGBT qui est super bien parce que c'est un non-sujet, justement. Il y a des personnages qui sont LGBT qui arrivent au milieu du truc. C'est vraiment... Ils sont traités absolument comme les autres personnages. Il y a un détail qui fait qu'on comprend qu'ils sont LGBT. C'est super moderne, c'est très bien fait. Je vous la conseille. Elle est en intégralité sur Amazon depuis quelques semaines. Ça vous passionne, non ?
Oui, non, franchement, là, en vrai, tu m'as donné envie.
Ouais, elle a 200 ans pour la regarder. On a un peu de temps.
Non, mais les space opéra, moi, c'est pas trop ma cam, ouais, Cosmos, machin et tout ça, comprends. Ça me fait royalement chier, mais tu la vends bien, hein.
Je vous conseille d'aller là, au moins la première saison, si les premiers épisodes, si vous accrochez pas, ça marchera pas.
Après, il y a vivre aussi, s'en sortir là.
Ce que t'aimes bien, les séries qu'on peut pas regarder en même temps que son téléphone, parce que The Watchmen, c'est un peu ça aussi, il faut regarder d'autres choses en même temps. T'aimes bien,
moi, j'adore jouer sur mon téléphone en regardant la télé. Après, pardon, mais ça n'engage que vous, méfiez-vous avec ce genre d'infos. Il y a des gens qui arrivent à faire deux choses à la fois. Bah moi, voilà.
Les femmes, ouais, quoi. Bref, les femmes du tatouage,
ouais, désolé. Sur certaines séries, je vous déconseille quand même.
C'est ça, faut que tu bac.
Ok, donc on est encore sur de l'attaque.
Est-ce qu'on va se calmer à ma droite? C'est les enfants là. On se calme. Allez, je propose qu'on passe à la chronique suivante.
Oh my god, les chroniques.
Comme chaque mois, la première rubrique est consacrée aux audiences. Et les audiences, elles sont basées sur la consommation sur les plateformes de SVOD des 1 300 000 membres de Beta Série. Donc on va.
C'est les copains, quoi.
C'est les copains, mais 1 300 000, ça commence à donner une petite idée quand même un peu.
On va faire du monde à mon anniversaire. Hein.
En 10e position, The Crown, qui descend dans le classement. 9e position, Lost in Space. Donc The Crown, c'est Netflix. Lost in Space également. On passe vite.
C'est étonnant.
Ouais. En 8e position, mais elle est arrivée plus haut dans le classement, elle descend petit à petit, c'est Messia.
Ouais. Bon. Mais ça reste bien, hein, Messia. Ça reste super.
Oui, écoutez l'épisode 2.
Non, je sais pas, j'irai voir la page d'Eric pour savoir ce qu'on me reproche, mais c'est super, Messia, je persiste ces signes.
Ouais. Bah, c'est clivant. Septième position, Star Trek, c'est une entrée avec la version Picard de Star Trek.
Vous n'êtes pas
des fans de Star Trek.
Mais non, c'est
Picard,
dingue qu'on n'ait pas fait le tour de ce concept déjà. C'est fou. Ça fait quoi, 50 ans qu'ils nous balancent du Star Trek là.
Ouais, moi j'adore
jusqu'à ce que. Mais genre, t'es. Ah, j'ai compris Picard, quoi.
C'est je me disais que c'était Star Trek avec Koé, quoi.
Là, on commence à avoir une idée.
Là, ça va être
cool. On commence à avoir une idée.
Désolé.
Il y a une version qui s'appelle Discovery de Star Trek, qui est dingue. Les vrais fans de Star Trek sont pas fans, mais vraiment, elle est dingue. Je vous la conseille. C'est un twist toutes les 10 minutes.
Est-ce qu'ils ont toujours les oreilles cheloues là? Et qu'est-ce qu'ils deviennent les autres là qui ils se cachaient? C'était des reptiles en fait qui mangeaient des souris. On n'a pas de nouvelles de.
Jane Badler, mais
ils vont nous faire un reboot. Ouais, ça c'est quand même. Forcément.
Mais ça c'était bien, c'était sexy ça aussi.
On a fait un reboot.
Il y en a eu un.
Bah oui, mais il va y en avoir encore un. Je sais pas s'il y a longtemps.
On arrête avec les reboots. On en parlera si on fait la carte blanche.
6e position, October Faction. C'est une entrée. C'est sur Netflix.
Mais qu'est-ce qu'on va regarder?
On en parlera.
Vous savez même pas ce que c'est?
Non.
C'est Picard.
On me change, c'est chroniqueur. Non, mais c'est Picard. 5e position, Titan. Netflix, ça descend. 4e, The Witcher. On en a parlé. 3e,
The Witcher qui présente l'émission aujourd'hui.
Oui, alors les gens qui n'ont pas l'image ne comprennent pas.
Regardez l'image parce que Eric, il a sorti sa petite queue.
C'est de toute beauté sur tous les réseaux sociaux.
Ah oui, regardez l'image maintenant qu'elle a dit ça parce que sinon vous n'allez rien comprendre.
Exceptionnellement, on fera des coupes dans cette émission. On ne va pas tout garder. 3e position, You. Netflix.
Ça
descend.
Mais quoi, au monde cruel, pourquoi?
Je propose qu'on ne refasse pas ce débat.
Attention, toi en boucle, c'est ta faute.
Donc écoutez l'épisode 2 pour savoir ce qu'on en pense. En 2e position, les nouvelles aventures de Sabrina.
Pas étonnant.
Sur Netflix, troisième saison.
Ça veut dire qu'il y a grosse consommation d'enfants sur Netflix.
Les adultes aussi, c'est assez régressif. Ouais. Moi, ça, j'ai pas trop aimé, mais tout le monde m'a dit c'est vachement mieux que la Sabrina de l'époque.
C'est mieux que ça. Enfin, ça n'a plus rien à voir d'ailleurs.
Moi,
plus
c'était ma sorcière bien aimée. Pour moi, on n'a pas fait mieux quoi.
1954.
Ah ouais, mais bon, c'était chouette. Puis ça a été repassé, ça finit par rentrer. Hein,
à quand le reboot?
Voilà. Titre.
Un petit reboot.
En première position, une série, on en parlera peut-être, je sais pas, Sex Education.
Oh, ma passion.
C'est d'une vulgarité.
Arrête.
Donc, comme on a un débat consacré aux séries sur le sexe, je pense que...
Il y a des chances pour qu'on en parle un petit peu.
Ouais, il y a des chances qu'on ne soit pas d'accord.
Qu'on l'aborde.
Exactement.
Comme Catherine.
Je précise juste que dans le classement, c'est celui de la dernière semaine de janvier, mais dans le classement courant janvier, on a vu apparaître Dracula, série Netflix, et The Outsider, série OCS. On en a tous regardé au moins un épisode pour moi, voir les 4 épisodes disponibles au moment où on enregistre God, et je crois que tout le monde est un peu au taquet.
Ah bah ça fonctionne super bien quand même. C'est tiré de Stephen King, c'est donc il y a quand même tous les ingrédients pour que ça fonctionne.
On va peut-être t'expliquer l'histoire, non? Non,
c'est ma carte blanche, mais sinon on fait pas.
Vas-y, censure-le! Censure-le!
J'ai peur qu'il fasse 8 minutes sur Outsider, c'est pour ça, j'ai un peu peur.
Une demande que je te faisais.
On se tait. Vous êtes totalement dissipé en fait aujourd'hui. Vous calmez, donc on se rappelle. On ne parle que quand je lève la main. Dorénavant. Okay. On ne parle pas sinon. On va passer aux cartes blanches.
Oh my god.
Bon, du coup, Fabrice, c'était pas prévu dans ce sens-là, mais comme on a déjà un peu commencé le sujet, tu commences à la carte blanche et je te rappelle que ouais. Tu as un temps limité, donc tu nous fais pas les 10 minutes de la dernière fois.
Tu viens de me bouffer 30 secondes.
Il a pas levé la main, il a pas levé la main, tu peux
moi,
pas parler.
S'il vous plaît. On n'est pas sûr. The Outsider, donc oui, c'est tiré de Stephen King, c'est un roman qui est sorti en 2018 aux États-Unis, en 2019 en France, et donc cette série est bâtie sur ce roman. C'est une série à la base qui commence comme une série policière, il y a un meurtre d'enfant, on essaie de trouver le coupable, on le trouve assez vite, puis je ne vous dis pas la suite. En l'occurrence, ça sombre tout doucement, tranquillement, vers de l'horreur, vers du fantastique, mais c'est par petits ingrédients, par-ci, par-là. C'est extrêmement bien filmé, il y a cette espèce de choix de vouloir filmer toujours les scènes comme si on rentrait chez les gens très doucement, avec une caméra qui avance doucement. C'est parfois un peu énervant, c'est vrai, mais en même temps, ça crée un climat vraiment angoissant qui ne fait que monter. Les acteurs sont super. Dans le troisième épisode, il y a Cynthia Erivo qui arrive dans le troisième épisode, qui est une actrice formidable, qui va tenir le rôle d'Aretha Franklin au cinéma, mais qui est vraiment dans un personnage très étonnant et qui est excellente. Mais tout le cast est super. Il y a Jason Bateman qui est super, qu'on avait vu dans Juno notamment, mais enfin on l'a vu ailleurs. Il y a Julianne Nicholson qui était dans Osage County avec Julia Roberts, qui jouait la sœur de Julia Roberts, qui est aussi formidable. Et puis le héros, le policier qui est joué par Ben Mendelsohn, qui est très charismatique. On est dans une petite ville, une toute petite ville américaine, donc il y a vraiment ce climat-là, ce truc où tous les voisins se connaissent, tout le monde connaît
c'est
tout le monde. Il y a une vraie atmosphère, et chez Stephen King, je trouve que c'est un des trucs les plus difficiles à recréer.
C'est ce qui est génial dans les romans, c'est qu'ils te collent la frousse, alors te créent une atmosphère, quoi.
Moi, j'ai vu que le premier épisode, mais la réelle du premier épisode, qui est de Jason Bateman,
je crois,
j'ai trouvé vraiment que c'était très bien.
Non, c'est bien, et puis c'est. Alors après, je t'en veux parce que je l'ai regardé pour l'émission, et ça me fout hyper mal à l'aise parce que c'est Stephen King, mais plus j'y vais, moins j'ai de peau par rapport à ça. Et donc, justement, c'est à la Stephen King. C'est-à-dire que ça demande jamais en tout cas pour l'instant, jusqu'au quatrième épisode, il n'y a pas de prise de parti. Il y a que des choses bizarres qui ne s'emboîtent pas. Voilà. Mais on est quand même dans de la. C'est crédible, quoi.
Et c'est ça la force de la série. C'est que. Enfin, c'est ce que j'allais dire un petit peu. C'est que moi, j'en ai un petit peu marre des trucs un peu trop fantastiques. J'ai beaucoup aimé Dark, par exemple, ou Stranger Things. Mais au bout d'un moment, bon, ça va. T'as l'impression d'avoir fait le tour. Et là, avec cette série, en fait, t'as un truc qui a l'air super réel. Et il va t'insuffler deux trois petits trucs où ça va être un peu chelou, mais voilà, et c'est pas un truc qui part complètement en cacahuète. C'est vraiment, ça peut être réel, et c'est ça sa force de cette série. Enfin, moi, c'est ce que j'ai aimé.
Alors pour l'instant, on a vu quatre épisodes. Il faut qu'ils tiennent. Je crois que c'est 10 épisodes. Ouais. C'est vrai que dans le troisième, quatrième, on avance. Et du coup, je me dis qu'est-ce qui va se passer jusqu'au 10e quand même. On essaie.
On reviendra.
Personne n'a lu les livres parce que des fois, Stephen King, après, il peut partir en vrille. Il peut partir.
Visiblement, la série est meilleure que les livres. En tout cas, c'est ce que tous les critiques disent. J'ai pas lu les livres, donc le livre. Donc je ne sais pas, mais il paraît que le livre est pas si bien tenu, mais dès le début.
Mais là, on peut se dire quand même que la tête de Stephen King, c'est un truc chelou. Vous imaginez que ce mec,
mais il a rien demandé à
avec lui-même. Hein.
Qu'il a
il
sorti,
vit avec lui-même. Quoi.
Il se croise dans le miroir.
Ouais, c'est un truc. Enfin, il est devenu aveugle quand même.
On se donne rendez-vous sur la prochaine émission pour faire un petit bilan. Je pense que les 10 épisodes seront passés. C'est les mêmes.
Écoutez, on est en train de parler de livres qui sont adaptés à l'écran, donc on passe directement à Fire and Blood, le pavé qui est sorti le 20 novembre 2018, Feu et Sang en français. En série, ça va être adapté par HBO, évidemment. Si Game of Thrones vous manque depuis la fin de la saison 8, ils sont en train de travailler dessus, et ça va être un vrai problème, parce que ce pavé, il a 700 pages, seules les 500 premières sont bonnes, et surtout, c'est un volume sur deux. La série, encore une fois, n'est pas terminée d'être écrite. Le bouquin, il n'est pas fini d'être écrit, donc ça va être un sacré problème d'adaptation.
Mais c'était comme ça sur Game of Thrones aussi.
Oui, mais...
Il participe à la série ?
Oui, il va aussi écrire un peu pour la série, donc on aura quand même des idées. Mais là, le vrai souci, c'est que l'action, elle se passe sur 300 ans. On a quitté nos héros, Jon Snow, il retourne dans sa forêt là-bas. On est
sur son mur, il n'est pas dans la forêt.
Repart above the wall, il va plus loin que ça. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on va suivre la dynastie des papas et des ancêtres de Daenerys, tous les Targaryens. Ils vont conquérir tout Westeros. Problème d'adaptation numéro 1, ça se déroule sur 300 ans. Donc, on va avoir des problèmes d'acteurs. Quelle période on choisit ? C'est très, très compliqué.
Non, ça s'appelle des problèmes de budget.
C'est exactement ça.
Oui, alors, a priori, ils n'ont pas un gros problème. Vu ce qu'ils ont mis dans Game of Thrones, ça devrait bien se passer.
C'est ça. Le deuxième problème, ça va être que c'est extrêmement long. Tous les critiques n'ont pas aimé le style d'écriture. C'est raconté comme un manuel scolaire d'histoire de l'Empire romain. Donc c'est très long, c'est très factuel. Là où même l'écriture de Game of Thrones, les livres, passait d'un chapitre à l'autre, tu passais à un personnage différent. Là, on reste toujours centré sur la famille Targaryen, donc ça va être un...
C'est les dégénérés en plus.
Ouais, oui, oui, pas tout le temps, pas tout le temps. Bon, alors évidemment, les ingrédients clés seront toujours là. Il y aura toujours du sexe, il y aura toujours de la trahison, il y aura toujours de la politique, mais
la
surtout,
vie,
voilà,
quoi.
Les dragons qui sont là et qui vont, on va voir la dynastie des dragons. L'épisode principal, ce sera la danse des dragons où deux factions, deux clans des Targaryens vont s'affronter. Ce sera sur HBO en 2021-2022, donc encore un peu de patience.
Et est-ce que d'ici là, tu sauras dire le nom de Daenerys ou pas du tout ?
Oh, je vois. Émilie, tant que tu es en train de tacler... Tu as un coup de gueule, je crois.
Ouais, j'ai un coup de gueule. Donc, je vais vous parler de Magnum, nouvelle génération.
Magnum.
Tu travailles pour TF1 aujourd'hui.
Bah voilà, déjà.
Ah non, mais non.
Virginie a raison. Donc, Magnum,
Virginie a toujours raison, qui est
en diffusion en ce moment sur TF1. Donc, c'est un reboot de Magnum. Pourquoi avoir fait ça? Pourquoi s'être dit à un moment donné, on va prendre cette série qui était, voilà, qui était ce qu'elle était, qui est culte, avec Tom Selleck, avec sa moustache.
75 ans cette semaine.
Voilà, avec
Tom Selleck.
Pardon?
75 ans.
Il est en pleine forme. Il a que 2 ans de différence avec toi? Pardon.
T'as vu que t'as fait un blanc. Je suis très gêné. Je demande.
Enchaîne, tu viens de killer 30 secondes dans ta minute.
Donc, pourquoi avoir fait un remake de cette série, donc qui est joué par Jay Hernandez, qui donc n'a plus la moustache, qui n'a plus les chemises à fleurs, qui se retrouve face à Higgins, qui est devenue une femme, parce que forcément, bah aujourd'hui,
MeToo est passé par là. Voilà. Donc Magnum n'est plus un gros macho.
Exactement.
Maintenant,
et puis
Magnum,
il faut une espèce de tension sexuelle avec elle. Donc du coup, c'est ridicule. Je suis désolée, c'est un torchon, c'est une insulte à la série originelle. Je ne vois pas l'intérêt et voilà, et ça m'énerve. En fait, je comprends pourquoi faire des reboots. À la limite, faites des suites comme ils ont fait sur Elwood. Elwood, ils ont repris les mêmes meufs, ils ont foutu 10 ans plus tard.
Ouais,
et voilà,
on reprend Tom Selleck.
Parce qu'il avait 75 ans.
Sinon,
les enfants de Tom Selleck.
Quelqu'un poussait Magnum sur sa petite voiture et hop.
Attends, il n'est pas de rabat.
Voiture Tom Selleck,
arrêtez. Donc voilà, ça m'a super énervé, s'il vous plaît. Alors, je sais que personne m'écoutera, mais je pense
qu'on t'écoute à Hollywood quand même.
On est de plus en plus influents.
Tu sais, je rappelle que cette émission est écoutée aux États-Unis. Donc,
it's amazing.
Et en Corée aussi, je crois, non?
Et en Corée du Sud, il peut se passer des choses. Très bien. Virginie?
Alors moi, je m'occupe du sommeil des gens, je l'ai dit. Donc j'ai commencé avec Cheer. Vous pouvez vous endormir là-dessus. Travail, famille, patrie. Il faut faire attention quand on s'endort sur des programmes parce que ça infuse quand même dans l'inconscient. Donc on ne peut pas regarder n'importe quoi. Bon, et si en revanche, vous êtes un peu trop conservateur, que vous vous sentez mal à l'aise dans tous les nouveaux concepts, je vous propose la JLC Family. Donc là, on est sur autre chose que travail, famille, patrie. On est plutôt sur mondialisation, intégration, consommation. C'est un autre concept.
Et donc,
ce sont des gens qui ambitionnent d'être des Kardashians. Voilà. Et alors, ils sont connus.
Wannabe Kardashians.
Ils sont connus, je ne sais pas trop pourquoi, hein, parce que moi, je ne les connaissais pas avant qu'on m'explique qu'ils
étaient
connus. Et donc, maintenant, ils habitent à Dubaï, ce qui est déjà un programme. T'es content.
Qui ont dit long.
Tu vois, t'as la chance d'habiter en France, tu te tires à Dubaï, t'es content. Donc, ils se sont installés à Dubaï, ils font venir tous les amis, un peu de force, hein, clairement. Même si, alors que tout est écrit, etc., tu sens bien que personne n'a trop envie d'aller les voir. Et alors, ils s'achètent plein de trucs de grandes marques et ils sont hyper contents. Et tout l'amour passe dans... Ils déguisent leurs enfants.
Ah oui,
les enfants sont mis à contribution. Bah là, tu vois, on parlait des mamans cheloues. Bah alors, voilà une famille chelou. Donc, les enfants grandissent devant les caméras. Très mal habillés, mais tout est de marque, donc ça va. Et ils ont des vrais problèmes relationnels les uns avec les autres. Et ils t'expliquent que c'est super de brader sa vie parce que ça fait des souvenirs.
Et donc, c'est super. Et c'est bien.
Ah oui, c'est très très drôle. C'est génial.
Où est-ce qu'on regarde ça?
C'est le moment.
Alors, JLC Family.
Chez Virginie.
Oui, tu nous invites tous à la maison.
Ce qui est super, c'est que c'est sur TFX, donc tu as en replay et tout ça. Puis après, tu sais, comme leur fonds de commerce, c'est les réseaux sociaux, tu as gratos sur Instagram, Snapchat, tout le temps.
Je comprends.
Tout le temps, ils sont
H24. Tu suis le hashtag. Tu lis pas les commentaires, mais t'es sur le hashtag de
GLC. Non, des fois, je fais des pauses. Non, mais attends, c'est extraordinaire. Les gens, ils te font du storytelling de rien du tout. Genre, attention, je vais nourrir mon chien. Et tout l'épisode tourne autour de la gamelle du chien qu'il faut chercher, de l'enfant, qui a mis la main dans la patte du chien. Mon Dieu, on va appeler les médecins. Ah bah tiens, je vais sortir la nouvelle voiture. Ah, la batterie est cassée, appelons papa. Il se passe plein de choses.
Est-ce qu'on peut faire un sondage entre regarder Magnum ou ça?
Ah ouais.
Regardons rien, en fait. Lisons un livre.
Magnum sans moustache, ça n'existe pas.
Moi, j'ai fait un petit rebond sur l'émission de la dernière fois. Le débat était consacré aux docu-séries. J'étais un peu le seul à défendre qu'il y avait un danger à fictionner la réalité parce qu'on pouvait donner une couleur à des faits réels. Mmh. Et on a eu un bon exemple juste derrière, puisque la tête de Aaron Hernandez nous a été offerte sur un plateau, pour le coup, et que c'est donc ce joueur de football américain qui a été accusé de multiples meurtres. On peut pas tout spoiler, en l'occurrence la règle c'est pas spoiler ce qui est récent, donc on va pas spoiler trop. Mais
enfin, le meurtre est public, hein, quand même.
Alors le meurtre est public, oui, mais
il y a des choses qu'on découvre,
on découvre des choses dans ce documentaire.
Oui, enfin, moi je connaissais pas l'histoire avant de regarder, hein. J'avais oublié cette histoire de Aaron Hernandez.
Ça s'appelle défaut de culture, j'ai.
Non mais rien à voir. Surtout, il y a un des éléments justement pour rendre le documentaire intrigant, intéressant, avec un twist possible. Il y a des éléments qui sont révélés dans ce documentaire, qui sont
discutables. Mais non, mais attends, dis-le, puis fermez les oreilles si vous voulez écouter.
Ok, donc on va spoiler pendant une minute.
Ça va,
donc,
écartez-vous du poste, attention.
Il y a deux éléments clés dans ce documentaire. Il y a deux éléments clés. Il y en a un qui révèle l'homosexualité.
Supposé, parce que ça remet des pelles à un copain de lycée, ça va.
Supposé, non, parce qu'ils ont fait plus que ça.
J'aimerais qu'ils ont joué au titre japonais aussi. Hein.
Donc, son collègue Ryan O'Callaghan des Patriots nous révèle avoir eu une liaison complètement consumée avec Aaron Hernandez. Ce qui est présenté pendant un moment comme la raison pour laquelle
il se lève et il va buter des gens.
Il a un peu vrillé et il va buter des gens.
Ça va bien les gens, les scénaristes.
Alors qu'il y a une partie qui est très intéressante et qui elle se lit dans les journaux, parce qu'effectivement il y a un vrai sujet derrière qui est cette maladie. Alors là je vais la lire parce que encéphalopathie traumatique chronique, l'ETC, qui est un vrai sujet de société qui met tout le monde par terre au niveau de la NFL parce qu'ils ont un vrai sujet de recrutement et de d'éducation des familles américaines.
C'est-à-dire
par
que
rapport
tout
à cette
le monde
maladie.
A réalisé que se faire plaquer tous les dimanches, c'est pas bon pour la santé. Waouh.
Oui.
Gros de.
Et c'est gros.
Sachant que là, on va refaire le débat qu'on a déjà fait avec Virginie en dehors de ce micro, mais en l'occurrence, c'est quand même un fait de société aux États-Unis que un enfant à 7 ans, il est inscrit dans une équipe de football américain. Tout le monde sait qu'il se fracasse la tête, mais ils y vont quand même. Donc il y a un vrai sujet derrière qui est complètement.
Moi, c'est le moment où je dis vos cerveaux servent à quelque chose.
À côté de cette pseudo-histoire d'homosexualité latente qui me paraît catapulté au milieu du sujet et qui
honteux.
Est vraiment déplacé pour moi.
Le traitement de ça est honteux. Ouais. Mais là où ça répond justement au débat de la semaine dernière, c'est que tu vois, la différence entre un bon docu-série et un mauvais docu-série, parce que franchement, mais je te trouve très light, hein. Je suis accablée que les gens s'indignent pas plus. C'est honteux. Mmh. La famille devrait attaquer le truc. L'avocat d'ailleurs a condamné le documentaire comment il a été fait. Et là, c'est vraiment. Mais alors, comment vouloir mettre des ronds dans des carrés, quoi?
Je suis tellement
mecs,
pas d'accord avec vous.
On est sur un truc genre. Déjà, pardon, mais ce jeune homme est mort très tôt. Une vie, ça s'écrit. Pendant longtemps.
On fait,
donc
30 secondes.
Voilà, non, mais donc le fait qu'il ait eu quelques aventures avec des hommes, qu'elles aient été passionnées, pas passionnelles, suivies, pas suivies, ne fait pas de lui. Enfin, c'est pas, t'es homosexuel.
C'est qu'il
ou
l'est
tu
caché,
l'es pas.
C'est parce qu'il le cachait, mais
c'est
ça n'a aucun
et
sens.
Et puis la vie a le temps de s'écrire, quoi. Qu'est-ce que t'en sais que le mec, s'il était resté vivant, il aurait pas fait son coming out?
Bon, Émilie n'est pas d'accord. Non, elle a aimé, elle a pas vu ce problème-là. Dis-nous en 10 secondes.
Non, je l'ai pas vu comme ça. Moi, je pense qu'ils l'ont expliqué aussi parce qu'il parle beaucoup de sa relation avec son père et qu'il sait très bien que si son père avait su qu'il était gay, et ben son père lui aurait défoncé la tronche et que du coup bah oui
et donc
effectivement.
Il s'est dit je vais aller tuer des gens
mais non le fait de tuer des gens n'a rien à voir enfin moi je l'ai pas lu comme étant une conséquence
malheureusement c'est quand même amené comme ça
c'est
comme ça
que c'est présenté on parle des meurtres on fait un documentaire sur ce mec qui tue
non c'est un des éléments de son mal-être était le fait qu'il n'arrivait pas à vivre enfin à assumer son homosexualité
donc le lien très direct
c'est une supposition de mauvais de journaliste qui dit ah bah il l'a pas dit alors ça veut dire qu'il était dans le placard et donc il était mal non c'est la psychanalyse. Bazar,
le procureur
quoi.
Le dit lui-même, ils ont hésité à utiliser l'argument, etc. Donc ça a été vraiment. Et là, c'est présenté comme si c'était dès le départ, établi. Avant même qu'on sache que le procureur avait voulu utiliser cet argument. On nous le présente dès le début, on se dit ah oui, donc c'est ça le problème, c'est qu'il cache son homosexualité. Il y a un truc assez. Ah ouais, moi j'ai trouvé ça. J'ai senti qu'il y avait une histoire qui était pas mal au départ, mais que du coup, ils n'avaient pas assez pour faire une série de documentaires. Ils se sont dit on va tirer dans tous les sens.
Et en plus, c'est globalement mal fait parce que ça passe. La timeline est très compliquée à
c'est
suivre.
Très décevant.
Bref, donc c'était un peu mon coup de gueule. Ne regardez pas.
Mais regardez et donnez-nous votre avis.
Après, il était joli.
Il y a d'autres choses mieux à faire. Voilà. Oui, il était joli, ouais. C'est vrai. D'ailleurs, oui, c'est le moment intéressant où on voit le jury dire ah là là, qu'est-ce qu'il est beau quand même.
Non, mais c'est vrai, il est joli.
C'est incroyable. On passe à la suite.
Ok.
Oh my God, le débat.
Après les plaisirs coupables et les docu-séries, donc, le troisième débat profite du phénomène sexe-éducation pour s'intéresser au sexe dans les séries. Dès les années 90, avec Oz, Six Feet Under, les Chroniques de San Francisco, Dream On ou encore Queer as Folk, on a compris que les séries oseraient aller sur le terrain de la sexualité de façon frontale, parfois choquante, souvent décomplexée. Certaines chaînes telles que HBO en ont même fait dès l'origine leur marque de fabrique. Et on se souvient qu'une série aussi majeure que Game of Thrones, a plus créé le buzz à ses débuts que pour ses scènes de sexe que pour sa narration. Mais qu'est-ce qu'il en reste en 2020 de cette envie de mettre du sexe dans les séries à la télé? Doit-on parler de qualité ou de racolage? Aborder ou montrer la sexualité à la télévision est-il garant de liberté de ton ou est-ce que ça fait appel gratuitement au plus bas instinct? C'est ce dont on va débattre maintenant.
Oh my God!
Bon alors, le sexe dans les séries, est-ce que d'abord on est pour ou contre? Est-ce que ça nous gonfle ou est-ce qu'on trouve que ça met un petit peu de peps dans tout ça et c'est agréable?
On est toujours pour.
Ouais
bon, oui, le sexe non. C'est la vie.
Non. Il y a pas d'autres choses quand même.
Enfin oui, avec Friends. Mais
le sexe dans Friends, ça sera un mais autre surtout, débat. Mais...
Pour moi, le sexe dans les séries, le problème, c'est pas tant si c'est utile ou pas utile, c'est que je trouve que le sexe est toujours utilisé de la même façon. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose chez les Américains qui est un peu le sexe, c'est sulfureux. D'ailleurs, on parle de séries sulfureuses. C'est-à-dire que moi, j'attends la série, alors ça commence un peu à se faire, notamment, on va parler de Sex Education, où le sexe, c'est quelque chose d'un peu joyeux. C'est pas forcément, c'est pas Game of Thrones avec des scènes où le sexe est lié à la violence, au caractère, au pouvoir, etc. Et je trouve que très souvent dans les séries, et pendant, on nous a longtemps habitués à ça, notamment dans les soap opéras, puisque j'ai l'occasion d'en parler de mes soap opéras préférés, mais il y a toujours l'idée que le sexe, c'est quelque chose de... C'est bien, mais c'est un peu sale quand même. C'est pas un truc dont on peut parler, c'est pas un truc léger, normal, c'est pas joyeux. Alors
c'est
moi, je milite pour le
normal.
Sexe. Oui, mais même dans les séries françaises,
attends,
le sexe, c'est toujours quelque chose d'un peu...
À quelle série tu penses quand tu penses à du sexe joyeux?
Non, mais le sexe joyeux...
Non, mais je voudrais un exemple. Parce que
dans Sex Education, dans la première saison de Sex Education, trouve
que
le sexe est dédramatisé dans la première saison. Mmh. Et donc, il y a un truc, arrêtons de traiter le sexe comme si c'était quelque chose de sale, de compliqué, de grave. Non, c'est juste, on nous le montre de façon plus légère. Ça change dans la deuxième saison, je trouve.
Ah, bah, il se rattrape bien dans la deuxième.
Dans la deuxième, ça devient un énorme problème et ça devient le centre. Et puis, c'est même lié à une espèce d'hystérie générale qui est complètement ridicule. Alors que dans la première saison, on est vraiment dont, tiens, finalement, parlons de façon un peu décomplexée. Que c'est du sexe sans que ce soit forcément un argument pour en faire une série extrêmement sulfureuse. Et d'ailleurs, la campagne de pub qui accompagne Sex
Charlotte
Education,
Abramoff, la photographe,
est assez
a fait un petit guide sur le
parce
sexe.
Que, oui, elle promet presque un peu plus ce côté sulfureux dans ses affiches, alors que la série, en tout cas dans la première saison, traite ça de façon assez intelligente, en tout cas assez légère, et je trouve assez nouvelle pour en parler dans ce débat.
Émilie, la saison 2 est nulle?
Pardon?
C'est une question, je ne sais pas si j'entends Fabrice nous dire, nous révéler que la saison 2 est nulle.
Je bouillonne depuis tout à l'heure.
C'est terrible.
Bon, alors on va dire tous.
Sur Sex Education, on va faire un tour de
SM.
On va faire un tour de table sur Sex Education, comme ça tout le monde aura le temps de dire ce qu'il pense.
Émilie. Moi, j'aime passionnément cette série. Vraiment. Et je trouve qu'elle est d'utilité publique, cette série. La saison 1.
Mayday.
Non, vraiment.
J'ai trouvé la saison. On laisse parler ses petits camarades.
Excellente. La saison 2 est encore mieux. Parce que la saison 2, pour le coup, comme tu l'as pas dit d'ailleurs, je sais pas pourquoi je te montre Fabrice, dans la saison 2, au-delà du sexe, il te montre aussi des personnages avec leurs fêlures, je pense notamment à Jay Anderson, passion de Gillian, qu'on voit un petit peu craquer à un moment donné. Jay Anderson dans cette série joue une sexologue qui a l'air de vachement s'assumer et de vouloir être absolument célibataire et de voilà, parce qu'elle a des coronesses et qu'elle éduque son fils seul et que son ex est un connard fini. Là, dans la saison 2, elle commence la saison en étant avec quelqu'un, on sait pas si ça va durer ou pas, mais quoi qu'il, elle a des moments un peu forts. Pareil pour le petit jeune, donc qui est son fils Otis, qui normalement est le petit garçon qui assure et tout ça, qui est amoureux mais cause pas trop, nanani nanana, où il nous fait une saison 1 où il est intéressant, mais pour lui personnellement, enfin dans sa vie personnelle, c'est un petit peu la merde. Là, au bout d'un moment, il commence un petit peu à craquer, donc on montre aussi encore une fois ses fêlures. Je trouve que pour la jeune génération, voir cette série là, bah c'est super important. Il parle de l'homosexualité, il parle de la bisexualité, il parle des maladies sexuellement transmissibles. Il parle de la grossesse non voulue. Il parle de comment on se nettoie l'anus quand on est pédé et que on a envie de d'avoir sa première relation.
Mais est-ce qu'on parle, d'une série ou d'un cours de YouTube ou de sexologie, parce que c'est deux choses différentes.
Les jeunes aujourd'hui, ils font comment sinon pour apprendre?
Ils ont internet.
Donc c'est sur Netflix.
Non, parce qu'en fait les études prouvent que les gamins aujourd'hui, le seul truc qu'ils ont vis-à-vis du sexe, c'est de regarder du porno.
Émilie,
et donc pour eux, toutes les nanas,
si tu délègues l'éducation sexuelle des enfants à sexe éducation, c'est on va dans le mur.
Je dis pas ça, je dis juste qu'il y a des réponses à des questions.
Ça s'accrocher, c'est dramatique.
Virginie, il y a des réponses aux questions, à des questions qu'ils n'oseraient pas poser à leurs parents, à des adultes ou même à n'importe quelle personne qui est plus âgée qu'elles, enfin que dans la vraie vie. Et c'est ça.
C'est vrai pour le coup. Et même la promo permet de faire ça. La promo qui, le sujet de la série. Et
plus réussi,
permet de porter une promo qui aborde de manière très frontale des sujets qu'on ne peut pas aborder comme ça aussi simplement.
Grâce à Charlotte Abramoff, la photographe.
Qui a fait un super boulot. Il est génial, le guide.
C'est pas vulgaire, à aucun moment cette série, elle est vulgaire. C'est pas un Californication que j'aimais beaucoup au demeurant, mais il y a des moments c'était trashouille, ou du Game of Thrones, effectivement.
Donc la saison 2 au même niveau que la saison 1?
Non, je trouve
toi.
Que la saison 2 est meilleure.
D'accord.
Vraiment,
pourquoi?
Je trouve que parce que plus de sentiments, plus de vérité et plus de sujets un peu touchy abordés. Moi, vraiment, la saison 2 m'a subjuguée, vraiment.
Révoltez-vous.
M'ennuie terriblement devant cette saison 2. J'en suis qu'à l'épisode 5. Ça avance pas. J'ai l'impression que Otis s'est transformé en Dawson Leary. Il avance il hésite, il est d'un chiant. J'ai pas vu la fin de la saison, donc je peux pas encore dire, mais j'ai envie de lui mettre des gifles et qu'il avance, en fait. Mais je pense que c'est peut-être une attitude, qui n'est pas constructive et que peut-être, tu as raison, peut-être que les jeunes apprennent des choses. Moi, j'y crois pas. Je pense pas que ce soit le rôle d'une série. Dans ce cas-là, je reviens à Masters of Sex, qui était encore plus éducationnel, on va dire. C'était les premiers sexologues qui apprenaient vraiment la sexualité, qui faisaient des études.
Mais t'apprenais rien dans cette série, mon chat. Effectivement, c'était les premiers à faire des études sur le sexe. Mais en vrai, on ne t'apprenait pas les choses. Moi, je suis désolée, j'ai appris le truc de la poire dans les fesses.
Mais moi, j'apprends pas. J'attends pas d'une série qu'elle m'apprenne ça. Et le deuxième truc, le seul problème que j'ai vu qui a été soulevé, c'est quand même le problème des caleçons. Et des slips qui ne cachent pas les érections, parce qu'il a quand même un sérieux problème.
J'ai passé le premier épisode à lui dire, mais achète un slip.
C'est complètement ridicule.
Je ne sais pas ce que c'est d'avoir une érection, désolé.
C'est ridicule. Cet épisode, le premier épisode de Sex Education saison 2 est absolument ridicule. C'est honteux.
Les gens qui courent parce qu'ils pensent à la chlamydia avec des masques.
Mais
c'est hystérique.
Non, mais attends, surtout, tu fais 10 épisodes d'aujourd'hui.
Mais non, c'est pas sérieux du tout. Quelle réalité? Je crois que les gens ils mettent des masques parce qu'ils croient avoir la chlamydia.
Parce que les gens.
Avec des gens qui courent dans tout le lycée.
Mais je suis désolée, il y a plein de monde qui savent pas qu'est-ce que c'est que la chlamydia, comment tu la choques.
Et alors donc, c'est en nous montrant des enfants, des élèves qui courent dans tous les sens.
Les gars, ça reste une série, c'est pour montrer.
Mais justement, c'est une série, c'est pas un cours éducatif, c'est une série. Et justement, il y a plus de scénario, il y a pas d'histoire.
Mais tout ce qui pourrait être creusé, qui pourrait être posé, c'est-à-dire que déjà, il se passe rien, on fait du surplace, quoi, pendant 10 épisodes. Mais quand enfin, il y a une perspective narrative, il ferme la porte. Le môme, là, le fils du proviseur.
Attention, soyez pas.
Oui. Non, ça va. Le fils du proviseur, quand il monte dans la bagnole, tu te dis sérieusement, ça fait 8 épisodes, là, enfin, il se passait un truc, il y avait un peu du croustier, et t'as pas d'idée, tu me fermes la porte comme ça. Mais c'est carrément honteux. Moi, j'ai détesté.
Comment vous expliquer?
Je me suis fait avoir.
On est 5 autour de cette table, et la série est un carton gigantesque d'audience. Et les critiques
sont. On n'a pas les mêmes.
Non, mais j'aimerais comprendre. C'est étonnant parce que j'ai
que
beaucoup de.
Émilie
fait partie des rares personnes autour de moi qui ont vraiment aimé la série.
Ah, il y en a.
En fait, certains de mes meilleurs amis ont vraiment aimé, mais finalement, c'est pas du tout la majorité de ce que j'entends autour de moi. Alors que je ne lis que des articles dithyrambiques. C'est 90 sur Metacritic. C'est énorme. C'est un phénomène de société absolu. Donc comment on l'explique? Qu'est-ce qui se passe?
Après, ça va être mon avis à moi, mais je pense qu'il y a deux choses. Déjà, d'une, je pense que effectivement, contrairement à ce qu'on peut penser, nous, vieux cons autour de cette table, il y a beaucoup de jeunes qui se retrouvent dans ces mômes, qui ne savent pas trop comment faire, qui ne savent pas trop à qui poser la question, qui ne savent pas trop quoi faire. Donc voilà. Déjà, je pense qu'eux, ils aiment pour ça.
Ça n'est que libératoire de pouvoir
et puis,
puis, aborder ces sujets.
Voilà, on te montre du cul un peu fun, un peu rigolo, un peu pas crasse-pouille, pas effectivement une lutte de pouvoir, pas du cul parce que t'as besoin de tenir quelque chose de quelqu'un d'autre. Non, c'est juste du cul pour s'éclater. Mmh. Et je suis désolée, mais autour de la table, c'est exactement ce qu'on fait, je pense. Enfin, en tout cas, j'espère pour vous.
Parle pour
deuxième
toi.
Chose.
Souillons.
Deuxième chose, je pense qu'effectivement, pour ce qui est des critiques, j'imagine qu'il y a quand même ce truc de se dire, on va quand même pas défoncer cette série qui, au final, et je persiste à le dire, peut aider des mômes, peut
bon,
aider
alors
des...
si mais ça si... sauve l'humanité, regardez Sex Education.
Non, je n'ai pas dit l'humanité.
Non, mais c'est un bon.
Mais tu vois ce que je veux dire? C'est que je pense qu'effectivement.
C'est une bonne pub, voilà, c'est une bonne promesse.
Je répète peut-être un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, mais on en parlait du petit guide dont tu parlais tout à l'heure et de la
ça,
série.
C'est
je
super.
Pense qu'il y a plein de mômes.
Il y a des clitoris
qui...
sur tous voilà. les murs de Paris, c'est formidable. Il y a des meufs à poil, les gens ont appris que les règles étaient rouges, tout ça, c'est grâce à Sex Education.
Je trouve ça super important et je suis désolée, mais alors il y a plein de gamins. Qui sont gays ou bi ou trans ou quoi que ce soit, qui enfin ont une représentation, non pas par des vieilles séries comme peuvent l'être, malgré ma passion pour cette série, The L-Word ou Queer as Folk et tout ça. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de séries LGBTQI+, plus,
etc.
Et là, ils se retrouvent enfin un petit peu aussi représentés et ils se disent, bon, bah, finalement, bah, lui, machin, effectivement, il a une érection autiste au début de la saison 2, il a une érection à chaque fois qu'il y a son calbut qui se frotte à sa chose.
Non, mais bah, disons
du coup,
que
je suis peut-être pas tout seul. Là, allez, et donc, du coup, tous les trucs un peu bizarres.
Je t'accorde un point, c'est que, effectivement, et il y avait ça aussi dans Euphoria.
Euphoria.
Non, c'est Utopia.
La saison 2 s'appellera Utopia, je pense, grâce à toi.
Non, mais c'est que. C'est vrai qu'on est sorti bon. Alors, par exemple, il y a la photo des Oscars qui tourne là, où c'est des plus blancs que blancs. C'est lavé, quoi, ouais, avec Myrlène. Mais là, dans la série, ce qu'il y a d'intéressant, petit à petit, c'est qu'on arrive à avoir des représentations où t'as. Alors, c'est très lent, hein. Ils ont quand même fallu attendre 40 ans, quoi, pour que ça ressemble petit à petit à la société. Mais t'as effectivement des homos, des hétéros, plein de nationalités différentes, des styles différents. Et on n'est plus forcément sur un sort de genre, oh, tu portes le monde sur tes frêles épaules parce que t'es différent. C'est-à-dire que juste, ces gens existent et donc ils sont là, quoi.
Ouais.
Et il n'y a plus de traitement psychanalysant ou comme étant juste un problème, ce qui est un peu soulageant.
Mais du coup, la promesse pédagogique, je trouve que pour le coup, elle était beaucoup mieux tenue dans la première saison qu'en dans la deuxième, clairement. Avec une espèce de dramaturgie qui prend le dessus et du coup, ça redevient un truc dramatique. Les personnages, du coup, perdent vachement en intérêt. Il y avait une intelligence dans les personnages dans la première saison. Moi, je n'étais pas dans la cible, mais je trouvais que les personnages étaient un peu intelligents. Il y avait une légèreté que je trouvais. Otis, il était très bien dans la deuxième saison. Et on a l'impression qu'il est devenu complètement esclave de ses hormones. Il n'y a plus rien d'autre qui compte, alors que
l'adolescence. Comme tous les ados, purée.
Mais non, mais comme tous les ados, arrête, on peut quand même faire deux choses en même temps.
Ado, non, moi j'étais tellement idiote ado, mais alors vraiment
je trouvais que l'intelligence des personnages que je voyais dans la première saison, qui la rendait plutôt sympathique finalement, disparaît dans la deuxième saison et redevient super plombante alors que la première saison avait cette légèreté.
Si on revient au sujet purement série, oui. On est quand même et qu'on sort du débat de société. Oui.
Non, mais alors là, ils sont un peu jeunes. On peut passer sur un truc à âge normal.
De notre âge.
Non, c'est des ados, ça me met mal à l'aise de parler cul sur une série d'ados.
Non, mais concrètement. Sur Sex Education, il y a quand même un vrai problème sur la mécanique de la série en fait en soi. C'est-à-dire que la première saison a trouvé une mécanique extrêmement maligne pour parler de tous les sujets de sexe. Le rendre en fait pas hystérique. C'est-à-dire que c'était pas. On avait l'impression que tout à coup, le 99% des sujets que tout le monde aborde dans la vie en règle générale, c'est du cul parce que ça n'est pas ça la réalité du monde dans lequel on vit. Le fait de tuer, non, alors peut-être le vôtre, mais non,
mais
en règle générale, non.
Dans un bar, tout le monde ne parle que de ça.
Non,
autour de toi.
Mais non, les gens.
Partout où je passe, ils parlent des gilets jaunes, de Macron.
Bien sûr, les gens parlent de politique, mais pas du tout, c'est pas vrai, c'est pas 99% de la bande passante. La deuxième saison ayant complètement killé cette mécanique du jeune qui joue cette espèce d'expert bien qu'inexpérimenté, tout à coup, on se retrouve dans un monde où on a l'impression d'être dans un monde déviant, où tout le monde est déviant, où on
même
plutôt
les adultes.
Adultes, absolument, mais tout le monde est dans une déviance
mais
qui moins
me dérange. Ça, c'est vrai, en l'occurrence.
Ce qui est extraordinaire, mais non, c'est que je parie, mais je suis sûre que si je te parle de Skins, tu vas me dire que c'est génial.
Mais Skin, c'était autre chose.
C'est de la même façon que Euphoria, je trouve ça génial. Mmh. C'est pas du tout le même traitement.
Mais bien sûr que
c'est. Tu rentres pas du tout dans le sujet de la même façon.
Non. Mais si,
parce que je suis
désolée. Skins, pour le coup, c'est voilà, on ne parle que de cul. Les gars, ils sont obsédés par le cul.
Mais en fait, il y a un truc avec l'adolescence de toute façon. C'est que le principe, c'est pour ça que les parents sont chiants, mais qu'ils ont quand même raison. C'est que tu joues à des jeux où t'es trop grand. Donc le cul, quand t'es. Tous ces rapports humains-là, quand t'es petit, trop petit, tu te les prends dans la gueule. Et ça s'appelle des expériences et ça fait qui tu deviens.
Tu prends des thèmes et des arcs narratifs qui te permettent de jouer avec. C'est-à-dire concrètement, dans Sex Education, le problème, c'est que même les adultes sont là-dedans. Donc dans Skin, on est sur, et dans Euphoria aussi d'une certaine façon, on est sur un angle qui est vraiment de regarder une partie, un moment de vie sur des adolescents dans des conditions très particulières. Alors que dans Sex Education, c'est tout le monde, les parents, les amis, on est dans un espèce de monde plongé à l'acide. Du sexe. Donc,
généralisé.
Moi, vraiment, ça m'a gêné sur la saison 2, pas sur la saison 1, que j'ai trouvé très maligne, très fine, et qui jouait déjà ce rôle-là, en fait, d'éducation intéressante, avec des storylines qui avaient un intérêt. Donc, vraiment, la saison 2 m'a un peu énervé, je le dis, parce que je me suis fait déboîter sur Twitter.
Mais tu as le courage de tes opinions, et ça, mais c'est bon.
Tu vois, quand on emploie que des mots comme déboîter, défoncer.
Bah, on y va, hein, c'est le débat sur le sexe. Bon, assez sur sexe, éducation. Quelle autre série un peu coquine comme ça vous a marqué, Selim?
Nip Tuck, clairement. Celle qui m'a retourné le cerveau quand j'étais plus jeune, c'était Nip Tuck.
Pourquoi
du coup, c'est une façon de glisser qu'il est jeune.
Pour des scènes en particulier, pour l'histoire.
Ouais, des scènes. Alors, parce que déjà, tu es dans un univers où, on le rappelle, les deux protagonistes principaux tiennent un salon de chirurgie esthétique.
Ça s'appelle une clinique.
Une clinique. C'est un salon. Ils reçoivent. Ils reçoivent à domicile.
C'est devenu un salon.
Et ils changent les gens. Et surtout, c'est que le sexe était traité dans ses aspects les plus déviants. Je pense qu'on peut le dire. Il y a des scènes, moi, qui m'ont marqué. Je les ai vite fait répertoriées.
Mais je pense qu'il en a sous le pied, Selim, sous ses airs, comme ça, de premier de la classe. À mon avis, il faut se méfier.
Tu les as regardées avec ta femme, ces séries?
Alors, figure-toi que pour retrouver les scènes exactes, je les ai trouvées sur YouPorn, qui héberge.
C'est pour ça que t'es arrivé en retard tout à l'heure.
Exactement. J'étais bloqué dans mon travail.
Quelle conscience professionnelle!
Mais tu as des bons caleçons, visiblement.
Non, je marche et je me fait mal dans la rue, c'est un vrai problème. Donc, on a une scène comme ça qui est très dérangeante, qui a été celle du sac poubelle sur la tête, d'accord ? L'épisode, c'était une jeune femme qui ne s'aimait pas beaucoup, qui n'était, en français, ça s'appelle « Trop beau pour toi ». Donc lui, le chirurgien, il prend son stick, le rouge à lèvres, et il la redessine. Il lui montre sur son corps tout ce qu'il va liposucer pour la rendre baisable, clairement, c'est le terme qu'il emploie dans l'épisode. Et à la fin, une fois
Julianne McMahon.
Exactement, Christian Troy dans la série. Quand elle vient chez lui pour coucher avec lui, elle trouve le lit un sac de papier Kraft et il lui dit « Tu mets ça sur la tête parce que t'as toujours pas le niveau ». D'accord, c'était extrêmement violent. Il y a une scène comme ça un peu
et
plus
donc,
joyeuse
c'est
où c'est le traitement, tu vois, le traitement du sexe qui était hyper.
Je sais pas si elle passerait encore aujourd'hui
brutal.
Cette série.
Je sais pas, c'est pas sur le cas par les premières.
Post-MeToo, ça peut être compliqué. Non mais d'en réécrire une, tu vois. Il y a aussi la scène où
Post-MeToo, Polanski est nommé au César, il y a pas de Post-MeToo, faut arrêter avec ça.
D'accord, OK, on arrête. Un plan à trois qui tourne mal où Christian Troy se fait gauler en train de tromper Kimber. Elle arrive, elle les rejoint, mais c'est un traitement américain. C'était diffusé sur quelle chaîne?
Paris Première en France.
C'était gentil. Mais donc ils gardent les vêtements.
Est-ce que ça c'est du racolage pour toi? Est-ce que c'est une série de racoles ou est-ce que c'est?
C'était complètement que du sexe.
Non, c'est ce qu'il attend.
Le traitement. Ouais. Mais clairement, quand tu regardes Nip Tuck, c'était ça. Et une troisième scène un peu plus marrante où pendant un dîner, il est en pleine puissance, en grosse confiance, et où il pose son sexe sur la table quand on lui demande mais pourquoi tu fais tout ça? Pourquoi tu te permets tout ça? Bon, voilà, la puissance, la virilité. Les mecs étaient complètement fous et ils le montraient et ils l'assumaient. Et Nip Tuck, du coup, j'ai passé
ça t'a construit.
En partie, oui. Mais il n'y a pas que ça.
Ok, très bien. Virginie, il nous reste 1 minute 30.
Non, moi, le sexe dans les séries, globalement, j'aime pas trop l'exploitation qu'on a faite. C'est-à-dire que c'est souvent ou perversion, ou une dérive perverse, ou pour asseoir un pouvoir. dans un sens ou dans un autre. Daenerys qui retourne Drogo, ça c'est elle qui prend le pouvoir, ou toutes les autres scènes de cul de Game of Thrones où c'est vous n'êtes rien, donc vous baisez, vous êtes à poil. Ce qui m'agace, c'est que évidemment je suis de ce côté-là de la barrière, une femme, et que bon bah là-dessus on a été 10 fois plus gâtés que vous, hein. C'est-à-dire que pendant des années on a bouffé du sein, du nibar, de gonzesse sans avoir l'équivalent en tant que garçon.
Ça se rattrape bien depuis, hein.
Bah ouais, enfin il y a 3000 ans d'exploitation avant, hein, donc vous avez encore un peu de marge.
Il y avait HBO il y a 3000 ans.
Tout à fait. Oh, wow. Tout à
la
fait.
Ta guerre du feu.
Donc et surtout je trouve que c'est jamais érotique, c'est très mécanique. C'est-à-dire que vulgairement, pardon, mais moi je n'ai pas souvenir d'une scène dans une série qui m'est excitée, alors que je peux vous dire la scène de Titanic où il y a juste la main. Tu vois dans la calèche. C'est un truc qui fonctionne hyper grave. Donc je suis très étonnée parce que je n'ai jamais vu autant de scènes de cul de ma vie sans avoir demandé que depuis les séries etc. Il y en a partout. Et en même temps c'est un truc j'ai l'impression de voir du McDo quoi.
Si tu veux être excitée regarde The L Word parce que à l'inverse de Kechiche eux savent filmer.
J'ai vu The L Word.
Un vieil hétéro qui filme deux nanas qui baisent et ça ne ressemble pas du tout à ça.
Non mais attends, World, ça c'est le fantasme de base de l'hétéro beauf qui a du mal à bander, c'est les amours saphiques. Au secours, sortez de nous.
La scène de sexe la plus sexy, c'est comme celle de Friends entre Monica et Chandler. C'est cette scène qu'on ne voit pas, mais que Phoebe voit de l'immeuble en face.
Ah ouais, ça, c'est génial. Ouais, c'est génial.
On a l'impression de voir cette scène.
Tu parles
alors
de Friends,
ouais,
maintenant.
Ouais, j'aime beaucoup Friends aussi.
Il y a une scène très sexy, bien que très frontale, dans American Gods. C'est une scène gay en l'occurrence, mais la série de Prime où il y a une scène qui est très très sensuel pour le coup entre un méchant monsieur, un petit chauffeur de taxi, et la scène est très étonnante, donc je vous invite à regarder cette série qui est dingue par ailleurs. Waouh, c'est la fin.
C'est
déjà
quoi, le titre?
On a fini American God sur Prime Video. Bon, c'est déjà la fin, vous nous suivez sur les réseaux sociaux, hashtag Oh my god, bêta série, tout ça. Enfin, bêta série, oh my god.
Bêta série, oh my god.
Et c'est
ou
ça.
Oh my dog. Sinon.
Oh my dog, au pire. On va sur la radio, on va sur toutes les plateformes. C'était encore trop court, mais on revient vite.
Plus c'est pourtant court.
Surtout qu'on parlait de sexe.
À très vite. Ciao.
À très vite.
Salut.
Oh my god. L'émission décomplexée sur les séries, présentée par Eric Maillard et sa bande sur Bêta série, la radio. Mm.